Held Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bonsoir et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture, une semaine sur deux, le mercredi sur Radio G. Et ce soir, nous recevons Jean-Claude Bauer, dessinateur de bande dessinée, qui va nous parler de son dernier ouvrage sur Klaus Barbie.
Bonsoir à vous.
Alors, salut Pablo.
Et salut Seb.
Salut Seb.
Salut Seb.
Salut, salut à tout le monde.
Ouais. Bonsoir à tous.
Alors et puis Jean-Claude est accompagné quand même.
Oui, de mon épouse, bonsoir. Sabrina.
Bonsoir. Donc ce soir une émission spéciale, bande dessinée, spécialement autour de cette BD sur Klaus Barbie, La Route du Rat. Alors Jean-Claude, tu vas nous expliquer pourquoi cette bande dessinée, comment elle a été conçue. Mais avant ça, on va, comme d'habitude, démarrer l'émission par un petit morceau de musique.
Ouais.
Alors, on sait que tu as dessiné une bande dessinée sur Johnny Hallyday, mais on va peut-être pas démarrer.
Non, quand même.
Tout de suite.
On va détendre un petit peu l'atmosphère.
Il a utilisé beaucoup de prénoms dans ses chansons, mais peut-être pas Klaus.
Alors moi, je vous propose un petit Al Green, un chanteur de soul américain.
D'accord.
Alors, pour démarrer tout en douceur, c'était
Allez, nickel.
On est bien sur Radio G.
Sans moi, ça avec la radio, tu es bon.
Bye.
Radio FM.
Alors vous êtes toujours dans Bande Geek Mafia et ce soir nous recevons Jean-Claude Bauer, dessinateur de bande dessinée. Alors Jean-Claude, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ton parcours professionnel, si j'ose dire, et en particulier en lien avec cette bande dessinée, bien sûr, sur Close Barbe.
Alors bon, dire que j'ai commencé à être dessinateur de la chronique judiciaire pour Antenne 2 en février 1987. J'ai pour la première fois suivi un procès qui était celui de Georges Ibrahim Abdallah, un terroriste libanais. Bon, je ne sais plus exactement de quoi il était condamné, mais enfin pourquoi il était condamné. Bon, sans doute pour terrorisme, tout simplement. Et il était défendu par un certain Maître Vergès. Donc j'ai découvert un peu cet avocat lors de ce premier procès. L'essai a duré 8 jours. Je suis resté 8 jours en cour d'assises à Paris. Et au terme des 8 jours, le chroniqueur Paul Lefebvre, le célèbre chroniqueur judiciaire de l'époque, m'a dit « Je te prends avec moi et je t'emmène voir le procès Barbie. » Et là, j'étais extrêmement impressionné. Mais j'étais loin d'imaginer ce que ça allait représenter pour moi et ce que ça allait me transformer ma vie, surtout. Vraiment.
Oui, complètement.
Je suis rentré de façon un peu naïve, vierge, comme on dit, et j'en suis sorti chargé de plein d'histoires, d'émotions. J'ai jamais imaginé un seul instant qu'en rentrant là-dedans, j'aurais autant souffert, quoi. Mais comme disent tous les gens qui ont témoigné, enfin tous les gens qui ont suivi ce procès, quand on est sorti de ce procès, on n'est pas sorti indemne.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est un procès qui a duré plusieurs mois.
Il a commencé le 11 mai 1987 et il s'est terminé le 4 juillet.
Oui.
Donc il y avait en tout 37 jours d'audience. Évidemment, il y avait les week-ends et tout ça. Donc moi je rentrais, j'habitais Paris à l'époque, et je rentrais tous les week-ends. Il valait mieux parce que ça me donnait une bouffée d'oxygène à chaque fois.
Ouais. Et Close Barbie n'était pas toujours présent, il était présent au début.
Il a été présent les 3 premiers jours, et au 3e jour... sous les conseils avisés de Maître Vergès, il a décidé de quitter l'audience et de ne plus jamais revenir. Sauf qu'il a été contraint à 2 ou 3 reprises de revenir pour être confronté à des gens qu'il n'avait pas vus pendant l'instruction.
D'accord. Donc les personnes que toi tu as pu dessiner pendant le procès, c'était essentiellement des témoins.
Ah ben c'était la force de ce procès, ouais. Surtout. C'est les témoins qui sont venus à partir du 20 mai. Et ils sont venus témoigner. En fait, beaucoup de gens pensaient que le fait que Barbie ne soit plus présent dans ce procès, le procès n'avait plus d'intérêt. Et c'était une erreur grossière que de le penser, puisque ça a libéré la parole des témoins et les témoignages étaient extrêmement puissants. Il y avait d'autres plus ou moins, mais je veux dire, après, on défile à la barre des personnalités politiques, des écrivains, Elie Wiesel par exemple, et puis aussi des personnes qui avaient beaucoup résisté, Geneviève de Gaulle. J'en passe, enfin, il y en a plein. Madame Vaillant-Couturier était présente aussi, a témoigné.
Une grande résistante.
Ouais. Et énormément de personnalités ont défilé là-bas. Alors, imagine un seul instant que quand tu n'es pas très au fait du sujet, je veux dire, et que tu vois défiler à la barre toutes ces personnalités, tous ces gens, waouh! Mais je n'avais pas pris non plus conscience de ce que ça allait représenter pour moi après.
Ouais, parce que j'imagine que sur le moment, c'est l'histoire qui t'arrive en pleine figure là,
complètement.
Comme ça. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comment on fait quand on est dessinateur et qu'on écoute des témoignages aussi puissants? Alors, c'est-à-dire comment on peut avoir cette... Parce que j'imagine qu'on est pris dans le flot de l'émotion.
Absolument.
Et en même temps, il faut avoir la distance de celui
qui observe, qui croque. D'avoir du recul par rapport à ça. Ouais. Et je pense que les choses se sont faites de façon assez instinctive, si je peux dire. Comme tu dis, j'en ai pris plein la figure. Et souvent... Et ça a duré presque un mois pendant pendant lesquels tous les jours il y avait 4-5 témoins qui défilaient à la barre et qui racontaient leurs malheurs, leurs souffrances, le fait d'avoir perdu leur fils ou d'avoir subi autant de sévices par Klaus Barbie. Enfin, l'épouvante au quotidien, quoi. C'était vraiment terrible. Ouais. Quoi. Ouais. Terrible.
Et comment on reçoit la plaidoirie de Jacques Vergès qui défend Klaus Barbie?
Mal, très très mal. Évidemment. Surtout qu'il n'a pas été tendre et il a dit des choses absolument ignobles, mais qui, enfin, je veux dire, qui pour personne, d'abord qui ont fait râler tout le monde, enfin, je veux dire, et même des gens de la profession, enfin des gens du barreau qui considéraient que c'était pas digne d'un avocat. On peut comprendre qu'ils défendent Barbie, c'était normal, on est dans un pays de droit et c'est normal qu'on défende un... peu importe ce qu'il a fait, mais il fallait le défendre. On est dans ce pays de droit.
Oui. On rappelle aux auditeurs qu'il était là poursuivi pour crime contre l'humanité.
Contre l'humanité.
Ce qui était la première fois d'ailleurs en France.
Oui, absolument, c'est le premier à avoir été jugé en France pour crime contre l'humanité.
Il avait déjà été condamné pour crime de guerre dans les années 50.
Oui, et il a été condamné deux fois à mort, en 52 et en 54.
Voilà, c'est ça.
Sans être présent, bien sûr, à ses procès par contumace.
Ah bah là, c'était par contumace. Oui, il avait réussi à fuir déjà.
Voilà, on va en parler. Il a fui. C'est aussi un des sujets de la bande dessinée.
Moi, j'ai aussi une question. Quoi. Au final, comment on peut faire, après avoir vécu finalement ce procès, avoir reçu tous ces témoignages, avoir entendu tout ce qui a pu être dit aussi en même temps, comment on peut s'en sortir sereinement après un tel procès? Ou est-ce qu'on en sort vraiment?
Non, mais je veux dire, je sais pas, j'ai encore. Il a fallu digérer tout ça. Hein. Enfin, là, ça fait 35 ans là, qu'il a été jugé. Le 11 mai, là, on fêtera, si je peux dire, les 35 ans de ce procès. Mais quand on sort de ce procès, j'ai dit, on sort pas indemne. Et on n'imagine pas qu'on puisse recommencer. Enfin, que des gens. On se dit. En effet, c'est bien qu'il y ait eu ce procès parce que pour l'histoire, c'est hyper important et puis ça va aussi permettre aux gens de réfléchir avant de commettre d'autres crimes. Et malheureusement, c'est utopique quoi, puisque de toute façon, on est en plein dedans là pour l'instant. Et puis avant, il y a eu la Serbie et tout ça, et des gens qui ont été, je me souviens plus du nom, mais vous m'en excuserez, mais des gens qui ont été condamnés aussi pour crimes contre l'humanité.
Vladić,
Karadžić,
voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, alors voilà, donc non, il ne faut pas. Alors après avoir vécu ça, je me suis dit, je vais sortir, je serai blindé. Et je peux affronter les autres procès qui sont complètement différents de celui-là. Mais. Ben non, on n'est pas blindé.
Après, c'est peut-être aussi toute la puissance de l'art, du coup, de pouvoir. Comment dire, sublimer un peu ce moment douloureux.
Alors je sais pas. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que je l'ai fait de façon très instinctive. Et des choses sont apparues après coup. Enfin, c'est avec le recul, c'est avec le temps qu'on s'aperçoit qu'on a fait telle et telle chose et qu'on a réussi à traduire cette émotion. Mais j'ai jamais cherché à faire quoi que ce soit. C'est venu. Vraiment, spontanément.
Est-ce que tu connais le travail du dessinateur qui a suivi le procès des attentats de Charlie Hebdo?
Il y en a plusieurs.
Oui, il y en a eu plusieurs. Mais il y a
François Bouc.
Voilà, c'est ça, François Bouc. Voilà, je cherchais son nom. Parce que lui, il évoquait exactement ce que tu dis, c'est-à-dire la difficulté de faire des choix entre ce qu'il entend, ce qu'il voit et ce qu'il doit retenir du procès.
On entend des choses, on écoute ce qui est dit, mais on ne retient pas nécessairement ce qui a été dit. Enfin, moi, et pour la réalisation de cette bande dessinée, j'ai dû me replonger à nouveau, ne serait-ce qu'en visionnant les DVD du procès, de replonger dans la lecture d'ouvrages pour voir un peu ce qui était dit et ce qui avait été dit. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, ça c'est sûr. Mais
c'est subjectif, évidemment.
Ben, évidemment, oui.
Merci Jean-Claude, on va faire une première pause musicale si vous êtes d'accord.
Bah,
et ensuite on parle de la bande dessinée Klaus Barbie, La route du rat. Tout de suite. Amy Winehouse.
Allez, un petit Amy Winehouse.
Dans Bande Geek Mafia.
Ouais.
Sur Radio GG 101.5, la radio qui fait moi.
Voilà, c'était Amy Winehouse.
I'm no good.
Ouais, c'est ça.
Si, si, on est bien.
On est bien pourtant sur un.
Oui, oui, pourtant on est bien.
On est bien là, Tintin.
Bien, merci les gars. On reprend.
Non, mais il faut détendre un petit peu l'atmosphère quand même.
Vaut mieux, surtout avec ce sujet.
Oui, voilà.
Creature Shock Radio FM. Alors Jean-Claude Bauer est avec nous ce soir, toujours dans l'émission Bande Geek Mafia, pour nous parler de la bande dessinée Klaus Barbie, La Route du Rat. Alors Jean-Claude, quelle est l'origine du projet? Comment ça s'est construit ce projet?
Alors ce projet s'est construit à la suite d'une exposition qui a eu lieu à Angers, aux archives départementales du Maine-et-Loire, et grâce à un article paru dans Ouest France, ils ont repéré que j'existais dans le coin et que j'avais suivi ce procès. Et du coup, comme il y avait une conférence qui était donnée par Jean-Olivier Vieux, qui était le substitut du procureur général Truche à l'époque, du procès, qui a été aussi l'organisateur de la mise en place, celui qui s'est chargé des accréditations pour les 600 journalistes qui étaient présents à ce procès. Enfin, c'est lui qui a tout organisé et donc qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Et donc, on s'est retrouvés après 30 ans d'absence, quoi. Et du coup, il m'a incité à... Je le dis toujours, il n'aime pas que je le flatte comme ça, mais c'est vrai. Et s'il n'avait pas été là, s'il ne m'avait pas poussé à faire ça, je crois que je n'aurais jamais fait ce bouquin.
Donc ça a été un moteur, en fait.
Oui, c'est exactement un moteur. Et bon, il fallait trouver un moyen un peu original, sortant un peu de l'ordinaire, plutôt que de faire un livre d'images et avec un texte, ou un livre tout court sur Barbie.
Comme un roman graphique.
Voilà, c'est ça, il y en avait plein. Donc là, on a fait le choix de faire une BD avec Frédéric Brémaud, qui est le scénariste et qui a construit l'histoire à partir de ce que on avait décidé de faire. Et donc on a pris le parti d'avoir comme pilier central le procès, parce qu'il fallait qu'on parle du procès, il fallait qu'on montre les témoignages, il fallait qu'aussi on soit glaçant volontairement pour faire rentrer ça
marquer les esprits.
Voilà, marquer les esprits, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est surtout de découvrir que Barbie n'a pas sévi qu'en France et du temps où il était nazi, mais qu'il l'a fait bien après aussi.
Ouais. Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être pour les auditeurs rappeler qui est Klaus Barbie quand même.
Alors Klaus Barbie, c'était un officier SS qui est arrivé en 42 et qui a pris qui était le responsable de la Gestapo à Lyon. Et quand il est arrivé, il a fait un ménage de fou, quoi. Je veux dire, il a commis tous les crimes que l'on sait ou que l'on ne sait pas, mais en tout cas, il a combattu les résistants, il a combattu les juifs et puis aussi d'autres personnes. Et donc, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup sévi. Alors, j'ai pas les chiffres en tête parce que vraiment.
Oui, c'est pas nécessaire.
Non, c'est pas vraiment.
On l'appelait le boucher de Lyon.
Le boucher de Lyon.
Ah, ouais, cerner une personne.
Donc ce qui était intéressant surtout, c'est de dire qu'à partir du 22 août 44, on sait que les Alliés arrivent un peu dans tous les sens. Ils ont débarqué en Normandie, mais pas seulement, en Provence, par l'Italie aussi.
Par l'Italie.
Et ils savent que c'est foutu, quoi, je veux dire. Et donc ils fuient Lyon. Et puis, il essaie de sauver sa peau d'une manière ou d'une autre. Il se fait arrêter par les Américains et il arrive à s'échapper. Et puis il sait qu'il est poursuivi, qu'il est recherché par les Anglais et les Français. Et puis un beau jour, il va servir l'Amérique,
ah donc
les USA.
Il est exfiltré aux États-Unis par les services secrets tout de
après,
suite.
Après,
c'est après ça.
C'est après. C'est-à-dire que à cause de la guerre froide, les Américains cherchaient à tout prix à lutter contre le communisme à tout prix. Et donc, qui embauchait de mieux que ces nazis, puisque c'était des spécialistes du genre. Ils ont embauché Barbie, mais pas seulement Barbie, mais en Barbie entre autres. Donc, il a travaillé pour les services américains pendant nombreuses années, jusqu'en 51, où là, il devenait un peu embarrassant et les Américains l'ont exfiltré. Et grâce à l'aide de la Croix-Rouge et d'un monsieur qui s'appelait Draganovic, qui était un prêtre croate,
et qui était aussi un membre du CIC et aussi un fasciste notoire. Donc, grâce à tout ça, il a pu obtenir une nouvelle identité avec sa famille. Il a fui l'Europe en passant, en partant de Gênes sur un bateau qui s'appelait le Corrientes et qui l'a amené en Argentine. Et à partir de là, il est remonté en Bolivie où il voulait passer une vie tranquille au début. Et il s'est vite ennuyé et à partir de là, ben, il a réussi. Il avait de très très bons contacts et toujours aidé par la CIA, hein, évidemment, pour lutter contre le communisme. Et donc, il est à l'origine de plein d'autres méfaits que bon nombre de personnes ignorent.
Des coups d'État en particulier.
Des coups d'État, des putschs, il a fait. Ouais, ouais, il a beaucoup aidé. Puis là, il a aussi.
Il a continué à conseiller, torturer.
Oui, il conseillait. Il était toujours dans l'ombre, mais il conseillait. On peut même dire qu'il est à l'origine de l'arrestation du Che.
Ah oui, d'accord.
Quand même.
Oui, on peut dire aux auditeurs, Che Guevara est mort en Bolivie.
Voilà, il est mort en Bolivie.
En 67.
Parce que lui, il luttait contre l'impérialisme américain. Et donc, c'était une cible notoire pour les services secrets américains. Et donc, ils l'ont ordonné son assassinat. Et son corps a été exposé sans vie devant le monde entier. Mmh. Et Barbie était derrière, avait tiré un peu les ficelles. Voilà.
D'accord. Et de 45 à 51, donc, quand tu nous expliques qu'il lutte contre le communisme, il sévit particulièrement en Europe, mais dans quel pays d'Europe à peu près?
Ah, l'Allemagne de l'Est.
L'Allemagne de l'Est, directement.
Il va chercher les informations là-bas et un peu l'URSS aussi.
D'accord.
Non. Un spécialiste du genre. Mais il devenait gênant parce que les Français, le gouvernement français réclamait, et jamais les Américains ont voulu lâcher le morceau.
C'est vrai que le gouvernement français réclame l'extradition de Barbie pendant des années, et c'est grâce à Beate et Serge Klarsfeld que finalement...
C'est après coup, ça.
Oui, mais que ça va se débloquer plus tard, des années plus tard. En
fait. Justement, tu parles de Beate et Serge Klarsfeld. Donc, dans la bande dessinée, ils font
La préface.
La préface. Comment ils ont accueilli ce projet?
Alors, j'ai décroché mon téléphone le jour où j'ai décidé de faire ce projet. J'ai dit, voilà, j'avais quelques pages de fait déjà, un peu, hein, de façon un peu avancée. Et j'ai envoyé quelques pages à Serge Klarsfeld. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais, ce que j'avais fait au procès Barbie. Et je lui ai demandé s'il était tout à fait d'accord pour écrire la préface. Il m'a dit, au vu de ce que vous avez fait, ça m'intéresse et je vais le faire.
C'est une chance.
C'est une chance
qu'il accepte.
C'est super. C'est super bien.
Et Monsieur View a accepté de faire. Alors, c'est pas une postface. Il a repris à la fin de cette bande dessinée un recueil qu'il avait écrit à l'attention des enfants pour le 30e anniversaire du procès Barbie. Et il m'a dit, je vous donne ça et vous le publiez dans votre ouvrage. Donc, il l'a fait gracieusement.
Et tu as écrit toi-même à la fin du livre?
J'ai fait un témoignage pour expliquer un peu tout ce que j'avais ressenti à cette période-là.
Donc en plus de la bande dessinée, en tout cas dans cette bande dessinée, on a aussi des textes très importants dont on vient de parler.
Il y a 120 pages de bande dessinée et il y a après ce récit qu'a écrit Monsieur View. Là, sur le parcours de Barbie aussi, en faisant référence aux victimes, les 44 enfants d'Izieux, il y a la liste complète des noms des enfants. Et puis il y a une interview qui avait été donnée il y a fort longtemps par Monsieur Truche, Pierre Truche, qui était le procureur qui a requis au procès Barbie, et qui explique ce qu'avait représenté le procès Barbie et le crime contre l'humanité en général. Il expliquait ça très très bien.
Comment t'as pris contact, comment ça s'est passé pour l'élaboration du scénario? Parce que donc toi tu as participé au procès, t'as fait les dessins, mais donc tu nous as expliqué que Frédéric Brémaud là justement a fait un scénario. C'est comment ça s'est...
Il a construit l'histoire et on s'est entendu. Au départ il me dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une espèce de récit d'aventure, raconter l'histoire de ce bonhomme, mais de façon un peu aventurière et tout ça, ou tu veux qu'on qu'on fasse une BD documentaire. Et moi, j'ai opté plutôt pour la BD documentaire, ce qui me semblait bien plus intéressant. Et ça ouvre un champ d'action ça ouvre aussi un plus large public. Quoi,
ah bah, tout à fait. En tout cas, ce que j'ai lu justement sur la bande dessinée, c'est vrai que on rentre petit à petit dans l'histoire et c'est vrai que là on a envie d'en découvrir plus aussi en même temps. C'est vraiment.
On va en découvrir plus après une pause musicale.
On fait une petite pause musicale et puis on continue à parler parce que c'est passionnant et c'est vrai que c'est impeccable.
On écoute Black Pumas dans Bande Geek Mafia.
Ouais, vous êtes bien dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5. La radio qui fait le point.
Woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
Avec Colors, un choix de Pablo. Ouais. Il nous fait toujours des petites playlists bien sympathiques.
On essaye de bichonner nos auditeurs.
Ouais, c'est vrai. Puis on en a besoin parce que le sujet étant ce qu'il est,
très lourd.
Un peu de douceur nous fait du bien.
C'est clair.
Culture Shock Radio FM.
Alors le sujet est passionnant, mais la documentation est pléthorique. Alors comment on s'en sort quand on veut créer une bande dessinée sur Klaus Barbie avec autant de documents, de textes, de photographies, etc.
Bon, il a fallu qu'on fasse de la recherche, hein, évidemment, mais j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus facile maintenant grâce à Google, hein. Je ne veux pas faire de pub, mais malgré tout,
Internet.
S'il n'avait pas été là, et je serais avec une tonne de papier chez moi, et là, ça m'a évité d'imprimer, d'imprimer des feuilles, d'acheter des livres et tout ça. Donc, je suis allé directement chercher les documents que j'ai pu sur Internet, ça c'est vrai. Et puis, je possédais, moi, de mon côté, d'autres documents. Et puis on a allié tout ça. Enfin, je veux dire, j'ai intégré les dessins originaux que j'avais fait pendant le procès.
Alors, ils étaient où ces dessins ?
Ah, ils étaient dans un carton à dessins.
Les archives.
Non, mais c'est chez moi. Ouais. Je veux dire.
Oui, j'imagine.
Et le problème, c'est que je me suis. Du coup, je suis. Alors, je fais une petite parenthèse là, mais je suis allé aux archives départementales du Rhône au mois de janvier dernier. Et donc ils ont décidé d'organiser une manifestation importante, et à partir du 15 septembre il y a une grande exposition qui va avoir lieu, qui va durer 6 mois sur Lyon.
D'accord.
Et il y aura de façon intermittente des expositions, enfin une exposition c'est sûr, mais des conférences qui seront données par des personnalités
des universitaires,
voilà, des universitaires de la justice, et moi aussi paraît-il, donc c'est ce qu'on m'a dit.
Bien.
Et voilà, donc à partir du 15 septembre. Tout ça pour dire quoi ? Que après cette visite aux archives, je me suis. Quand j'ai vu tous ces documents qui étaient conservés là-bas, je me suis dit, mais c'est magnifique, quoi. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai vu des œuvres d'art fabuleuses, quoi. Mmh. Et je me suis posé la question, je me dis, mais ça m'interroge, qu'est-ce que je vais faire de mes dessins de procès ? Et bien, j'ai décidé, d'un commun accord avec eux, de faire don de mes dessins aux archives départementales du Rhône.
Ah ouais, des originaux.
De tous mes dessins.
D'accord. Ah oui, ça.
Donc, je garde le droit d'auteur. Je garde le droit d'auteur, mais ça ne m'appartient plus.
D'accord.
Mais là, je suis certain que ces dessins seront bien protégés.
Oui, c'est vrai.
Et qu'on va en prendre soin ad vitam. Voilà.
Ad vitam, et en même temps, c'est dans une logique de passeur de mémoire aussi.
Voilà, exactement. Mmh. Exactement. Donc ces dessins vont rejoindre tous les documents et toutes les pièces qui ont servi à faire le procès de Klaus Barbie, les pièces d'instruction et bien d'autres.
Bien sûr, ça fait partie du
tout
procès.
Ça. Donc
sûr,
ça va être un ensemble et tout ça va être conservé précieusement aux archives.
C'est une très bonne idée.
Voilà. Ouais.
Bravo pour ce don.
Ouais, mais oui, je vais même renouveler l'opération avec le procès Papon et le procès Touvier que j'ai suivi intégralement aussi.
Ah ouais.
Ah oui, je me souviens très bien du procès Papon. C'était. Ouais.
Alors Papon, je l'ai pas fait intégralement parce que ça a duré quand même 5
ans. Oui, c'est ça. C'était très.
Et j'avais quitté France 2 déjà et du coup non, mais j'ai pas fait beaucoup de dessins. Mais bon, j'ai pas encore dit je vais le faire officiellement, mais j'y pense.
T'y penses, ouais.
Donc pour revenir à la BD sur Klaus Barbie, donc tu as utilisé tes dessins.
Alors les dessins originaux, je les ai intégrés dans la
est-ce
narration.
Est-ce que tu es obligé de les retravailler
pas
ou
du tout,
tel quel,
pas
d'accord
du tout, pas du tout.
Et pour le reste, tu as travaillé à partir d'une documentation de photographie.
En fait, il y avait donc comme tout tournait un peu autour du procès. Bon, tout ce qui concerne le procès, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est son les DVD du procès Barbie.
Oui, il a été intégralement filmé.
Voilà, intégralement filmé. Ouais. Bon. Et donc, du coup,
première hein, pour l'époque. Hein.
On dit un tel témoigne, j'avais cherché ça sur le DVD et je reprenais plus ou moins à l'identique la personne. Quoi. Donc j'ai essayé d'être le plus réaliste possible.
Et pour Barbie jeune, Barbie, parce que alors tu l'as
Barbie
vu, toi,
jeune,
tu l'as
bah,
vu
âgée, Barbie. J'ai fouiné, hein, j'ai cherché, et j'ai pas toujours trouvé ce que je voulais. Il y a en fait très peu de photos, c'est toujours les mêmes photos qui reviennent.
Oui, c'est ça.
Et donc après, à partir du moment où on sait à quelle période ça se passe, ben on essaie d'interpréter. Quoi. Je veux dire, ça, on n'a pas le choix. Hein, je veux dire.
Oui. Alors, je reviens sur ta question, Seb. Tu reprends donc les dessins, Jean-Claude, tes dessins, mais est-ce que quand tu revois ces dessins des années après, T'es pas tenté de vouloir les retravailler, les réactualiser non, par rapport
tout,
à la mémoire?
Pas du tout, pas du tout.
Non, non, non.
Il faut les laisser comme ils sont.
Comme ça.
En
comme
l'état. Les, voilà. Ah oui, oui, absolument. Il n'y a aucune brut, raison. Quoi, surtout dit, qu'ils ont été faits sur place, bah, en sûr. Direct. Quoi. Donc, de toute façon, j'ai aucune raison de les changer. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Mais il faut mais accepter ça. Non, non, mais pas tous, hein, parce que...
Oui, il faut faire du tri.
Être, moi, personnellement, critique par rapport... J'ai fait 197 dessins.
Oui, ils peuvent pas tous être dans la bande dessinée.
Donc, ils sont pas... Et puis, en plus, je te dis, c'est vraiment... Pour moi, c'était une première quand même, quelque part. Mmh. 2 mois intenses à dessiner des gens qui défilaient à la barre, et pas des moindres, enfin, c'était des sacrées personnalités.
Oui, voilà. Parce que non, mais je me disais que, comme après, avec l'expérience, tu te dis, ah tiens, je l'aurais pas dessiné comme ça.
Oui, bah, évidemment, je me suis posé la question. Parfois, ouais. Je me disais, ah ben ouais, c'est pas terrible quand même, là, sur ce coup-là, j'ai pas. Hein. Mais bon, après, c'est comme ça, mais il faut l'accepter comme ça.
Ouais, 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 t'as préféré garder.
Oui, oui. Alors après, l'archive. Là, dans le récit, j'ai utilisé les dessins qui me semblaient les mieux, enfin, les meilleurs, en tout cas, mais après, ils sont pas tous excellents, hein, mais c'est comme ça.
Il faut dire juste, excuse-moi Seb, je te laisse la parole, il faut dire que en dehors de ces dessins qui étaient déjà existants, tout le reste, ça t'a demandé 3 ans de travail.
3 ans de travail.
Voilà. Il faut quand même le dire, c'est un énorme travail.
Ouais. Ouais. Et donc, on a délimité les époques, c'est-à-dire que tout ce qui était relativement récent, à partir des années 72, on faisait du... Enfin, j'ai décidé de faire du dessin en couleur, et tout ce qui traitait de l'histoire, c'est-à-dire de la période de la guerre, entre 42... Enfin, 42, puisqu'on parle de Barbie, donc c'est 42. 42 à 45, j'ai utiliser le sépia. Donc voilà. Donc,
ça aide le lecteur à se repérer. Voilà. Quoi, dans le temps.
Ça aide le lecteur aussi en même temps, et ça transcrit aussi en même temps l'émotion, des émotions. Parce que justement, là, quand on parlait de retoucher les dessins, je pense aussi que les dessins qui ont été faits à l'instant T des témoignages sont aussi chargés certainement de l'émotion du moment.
Bien sûr.
Donc comment retravailler ça, c'est impossible.
C'est déjà des documents
en soi. Non, non, là où j'ai pu peut-être moderniser un petit peu et où je suis évidemment beaucoup plus à l'aise, c'est sur les dessins que j'ai réalisés après, quoi, pour, ouais. Dans la mise en scène, quoi, dire, voilà. Et mais j'ai essayé d'être le plus précis possible. Enfin, je sais pas ce que vous avez,
oui.
Vous avez vu à quel point.
Oui, bien sûr.
Vous verrez le 13 mai.
Le 13 mai, la sortie de National.
Mais c'est vrai que c'est extrêmement réaliste, notamment dans des passages couleur sépia, là justement, parce que c'est des images. Voilà, donc on est enseignant, on les utilise, c'est des images qu'on voit, et là on les revoit, c'est avec l'émotion aussi qui ressort, et c'est saisissant, quoi. C'est vraiment saisissant. Et ça tranche aussi en même temps, c'est. En moi, c'est mon ressenti, hein, par rapport à la... ça tranche, parce que c'est vrai qu'on a cette partie qui est très colorée, qui est très joyeuse, et, entre guillemets, très joyeuse, voilà. Mais pour lui, si, c'est joyeux, parce que finalement, il est en Bolivie, il est tranquille pépère. Et puis, de l'autre côté, on a toute l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, là, qui transparaît avec cette couleur sépia. Ça tranche, et on se dit, c'est pas possible quand même qu'il ait pu échapper autant.
Ben oui.
On s'est réussi. Parce que Seb est ému, on sent que ça l'a touché. Donc
ça m'a profondément touché. J'ai adoré graphiquement. Voilà, je le dis pas parce que tu es à côté, mais graphiquement, moi, je trouve que
c'est toujours à Berne ton compte.
Non, j'ai changé, c'est les îles Caïmans maintenant.
Non, mais c'est gentil.
C'est honnêtement, voilà, et même sur les témoignages. Alors à un moment, tu fais juste la.
Je fais des parallèles.
Oui, des parallèles.
Flashback, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un témoin et tout à coup il raconte l'histoire, comment, dans quelles conditions il a été arrêté par Klaus Barbie, et évidemment c'est un retour en arrière là pour le coup, et j'intègre le sépia dans le récit du témoin, quoi. Donc,
et là on a vraiment l'impression d'être présent dans la salle, d'écouter le témoignage, et de voir justement l'émotion de ce témoin en train de décrire ce qu'il a vécu, quoi.
Mais je voudrais dire quand même, je dois remercier l'éditeur, parce qu'au départ on était parti sur un style graphique à peu près, j'allais dire classique, de ce qu'on voit dans les bandes dessinées traditionnelles, et il m'a interpellé très vite en me disant, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut que tu reprennes les dessins, que tu fasses exactement, réutiliser la technique que tu utilisais au moment des procès. Mmh. Et là, je me suis lâché. J'ai senti un vent de liberté. Ouais, super, quoi, je veux dire. Et je me suis lâché.
C'est vraiment. Urban Graphic.
Urban Graphic. Mmh. Mmh. Et je remercierai jamais assez l'éditeur de m'avoir laissé cette chance, quoi, je veux dire. Et le temps pour le faire. Ouais. Ça, c'est important. Mmh. Parce qu'on ne fait pas du travail comme ça. C'est pas possible, on peut faire ça en 6 mois, un an, c'est pas possible.
Non, il faut éviter les erreurs historiques.
Voilà, en plus, il faut être très vigilant, c'est pas toujours évident. Je dis pas qu'on en a pas commis, hein, c'est possible. Après, aux spécialistes de
ça lire, a été lu, relu.
Oui, ouais. Ça a été relu de nombreuses fois par des gens différents et des gens spécialistes. Et bon, après, on fait la part des choses, hein, c'est normal. Ouais, ouais, on en a parlé tout à l'heure.
On fait une petite pause.
Allez, va. Allez.
Alors, on va pas écouter. Il faut qu'on dise aux auditeurs quand même que Jean-Claude n'a pas écrit que des bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des bandes dessinées sur Angers, la ville d'Angers, okay. Johnny Hallyday, entre autres, Spyware. Ouais. Et on va écouter, non pas le pénitencier de Johnny, mais la version originale des Animals, House of the Rising Sun.
Ouais, dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G.
101.5, la radio qui fait le point.
Cette version instrumentale.
Populaire un peu là.
Mais oui, mais on est à l'antenne, Pablo. Alors, Seb, pour finir l'interview de Jean-Claude Bauer, qui a vraiment l'amabilité de nous rejoindre ce soir.
C'est gentil à vous de recevoir en tout cas.
Une question très intéressante sur la mémoire.
Sur la mémoire, finalement, pourquoi est-ce important de transmettre cette mémoire de ces événements, de ce procès
C'est déjà pour combattre un peu le négationnisme et bien rappeler quand même que toutes ces choses-là ont vraiment existé. Et ça, c'est important. Et puis, c'est important aussi que les enfants... Enfin, moi, on ciblait un public jeune et c'est ce vers quoi il faut aller. Quoi.
Le négationnisme
Et le révisionnisme.
Qu'on a entendu
absolument.
À
ces derniers temps.
Ces derniers temps, quoi.
Il y a eu des relents pendant les élections, c'était terrible. Non, il faut absolument que les choses soient dites, et ça, c'est important. Mais ça, j'ai pris conscience ça aussi après
le procès,
quoi. C'était pas évident du tout. C'est important. C'est important de transmettre et de continuer à entretenir ça. Voilà.
Oui, et c'est là qu'on voit qu'un dessinateur, un artiste aussi, est aussi dans un travail par rapport à la mémoire d'engagement, en fait, c'est un engagement politique, en fait.
Un engagement citoyen.
Citoyen, politique, non, mais...
Non, citoyen. Politique, pas au sens politicien du terme, mais politique au sens de vie dans la cité, quoi. C'est-à-dire
c'est
que,
oui, voilà, oui, absolument. Absolument.
C'est important, quoi.
Oui, absolument.
On sent le prof de philo.
Oui, je vois ça.
Merci beaucoup. Alors, à la demande générale.
Oui.
Après la musique d'ascenseur,
voilà. On va écouter le pénitencier dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et cela. Que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
je t'ai trop fait pleurer.
On va pas écouter la chanson en entier, malheureusement.
Non, nous sommes arrivés au troisième étage.
Parce que nous avons quand même quelques bandes dessinées. Comme Jean-Claude est là, il peut intervenir, bien sûr, s'il le souhaite. Seb, une BD qui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, juste la petite question, quand même, ouais, aussi, en même temps.
Pourquoi la route?
Pourquoi la route du rat?
Mais moi, j'ai pas pu entendre ta question, Pablo.
D'accord. Donc, la route du rat, pourquoi? C'est pour rappeler que, en fait, les nazis, quand ils ont fui l'Europe, ont emprunté cette fameuse route des rats.
Des rats, oui. Ratline.
Des rats.
Ah,
ratline.
D'accord.
Donc voilà, ça explique tout.
Oui, ça s'appelle la ratline.
Darby était un rat parmi les autres.
Ouais.
D'où le titre.
D'accord.
Voilà.
Très d'accord. Bien.
Bon, toi, alors là, une bande dessinée, on va dire, un petit peu plus légère, hein, quand même. Donc, les Campbell de Muniara, aux éditions Dupuis. Donc, à l'origine, normalement, on a 5 tomes là, qui ont été regroupés dans une édition complète. Et donc, voilà ce que l'on nous dit sur cette histoire. Véritable légende de la piraterie, Campbell s'est retiré des affaires après le meurtre de sa femme pour élever ses filles en paix, loin des souvenirs douloureux. Mais son passé le rattrape. La confrontation avec Inferno, son plus terrible et intime ennemi, est inéluctable. Homme redouté et redoutable, hanté par son passé et ses actes, Inferno souhaite se débarrasser une fois pour toutes de Campbell. L'ancien pirate va donc devoir faire face à de nombreux dangers, tout en gardant un œil sur Ithaca et Genova, ses deux filles aussi attachantes que téméraires, pour pas dire autre chose. Donc là, on a le récit complet qui réunit donc les 5 albums de la série, qui donc en plus est agrémenté d'un petit cahier graphique de 20 pages. Et donc là, on retrouve une histoire, bah voilà, une histoire finalement pas de cap et d'épée, mais de pirates, plein d'action, d'humour aussi en même temps, parce que justement les deux filles du pirate Campbell, eh bien justement lui en font voir de toutes les couleurs. Et donc du coup, il se retrouve dans des situations cocasses. Et petit à petit, l'histoire de Campbell finit par apparaître. Et je vous laisse découvrir.
C'est mystérieux. Il est très fort.
Pas mal. Suspense. Bien joué.
Donc voilà. Ça, je
nous rappelle les références, Seb.
Donc Muniara, les Campbell, récit complet aux éditions Dupuis. Voilà, mais il n'y a plus le tarif. Mais bon, enfin bref, là, c'est un beau petit cadeau aussi, éventuellement, à prévoir pour Noël.
Très sympa.
Et graphiquement, c'est pas mal, c'est bien, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Ouais. Voilà. C'est
Pablo, je vois Metal Hurlant.
Alors, Metal Hurlant, ouais, le retour. Alors, c'est le tome 2, c'est le tome de l'hiver 2022. Donc, une BD, une revue BD SF, souvent cyberpunk ou near future, qui paraît tous les trimestres. Donc, que retenir de la fantastique aventure de Metal Hurlant entre 1975 et 1984? Réponse dans cette bande dessinée. Et répondre à une telle question est un défi que seul Jean-Pierre Dionnet, son collaborateur et cofondateur, rédacteur en chef historique, pouvait relever. Il a fait une première sélection de 23 histoires courtes qui qui, selon lui, constitue l'essence de Métal Hurlant. On y retrouvera The Long Tomorrow de Moebius et Dan O'Bannon, qui a influencé par exemple le film Blade Runner, hein. Et on trouvera aussi Agorn de Philippe Druyer,
ah oui,
ou Crux Universalis Eternity Road d'Enki Bilal. Donc vraiment et énormément de alors beaucoup de d'histoires courtes comme ça, avec des graphismes très très différents, hein, parmi les auteurs que je viens de citer. Et bien sûr d'autres auteurs qui ont marqué l'histoire du genre, dont Mézières, Gillon, Graveloup, Schuiten ou encore Jean-Claude Gall. Voilà, voilà. Donc Métal Hurlant, le tome 2, paru en février cet hiver. Et alors par contre, pas tout à fait donné, 20€, mais vraiment...
Oui, mais très c'est une grande qualité.
Très grande qualité.
Donc il y en a deux par an, c'est ça?
Non, il y en a tous les trimestres.
Ah, c'est un trimestriel, d'accord.
Ouais, c'est un trimestriel.
Comme tu, je croyais qu'il y en avait un l'hiver, un l'été, je ne sais pas pourquoi.
C'est la collection automne-hiver.
Ouais, voilà. Voilà.
Bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jean-Claude, merci de l'avoir rejoint.
Ah ouais, un grand merci. Ouais. Un grand
on rappelle la bande dessinée, donc Klaus Barbie.
Qui sort le 13 mai.
Voilà, La Route du Rack sort le 13 mai, donc chez Urban Graphic. Mmh. Vous la trouverez très facilement sur Internet et dans les librairies, distribuée. Merci beaucoup, vraiment.
Oui,
merci, c'était un moment très, très, très agréable. Et puis sur une BD essentielle, je dirais.
Ah, c'est essentiel. J'espère que ça marquera les esprits.
J'en suis sûr. Puis ça va intéresser les enseignants, les jeunes et au-delà,
et moi, je suis ouvert à toute rencontre éventuelle. Je lance un appel.
Le message est entendu. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rencontrer Jean-Claude Bauer. Voilà.
Super.
Un petit générique.
Allez, bonne soirée à tous.
Bonsoir.
Ouais,
bonsoir.
Ciao, ciao.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day I cut my throat.